VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 13 décembre 2016, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Pion. Pour commencer, quelques titres. En République démocratique du Congo, les évêques catholiques ont refusé la retransmission en direct des négociations qui reprennent ce mardi à Kinshasa. Plus de 260 Maliens expulsés d'Algérie sont arrivés à Bamako. Le gouvernement kényan va réfléchir sérieusement à un éventuel retrait du Kenya de la Cour pénale internationale, a affirmé hier le président Uhuru Kenyatta. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé hier l'arrestation de 4 suspects dans l'attentat qui a fait 25 morts dimanche contre une église copte du Caire. Et puis Donald Trump a promis d'annoncer aujourd'hui le nom du futur chef de la diplomatie américaine. Tels sont donc les titres de cette édition. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, les évêques catholiques ont refusé la retransmission en direct des négociations qui reprennent ce matin à Kinshasa entre les signataires de l'accord d'octobre et le rassemblement. Les discussions devraient aboutir en compromis pour une transition pacifique avant la prochaine présidentielle. Les détails avec Eric Manirakiza.
La conférence épiscopale nationale du Congo veut que les négociateurs se concentrent sur l'essentiel, d'après l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de la CENSO. Il répondait à la demande de la coalition de l'opposition derrière Étienne Tshisekedi, qui souhaitait une retransmission en direct des débats. Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, a rétorqué que le rassemblement va donc exiger d'entamer directement les discussions en commission pour éviter le blocage. Les évêques catholiques congolais ont lancé ces négociations le 8 décembre à Kinshasa. Ils tentent d'arracher un accord politique inclusif pour permettre une transition qui rassure toutes les forces vives avant la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre. Cette réunion en principe doit durer 3 jours et se terminer jeudi. Le rassemblement a déjà annoncé que M. Tshisekedi s'adressera à la nation peu après la clôture des travaux de ce dialogue, dit de la dernière chance.
Plus de 260 Maliens expulsés d'Algérie sont arrivés à Bamako. Un grand nombre ont accusé les forces de sécurité algériennes de les avoir violemment maltraités, faisant des blessés, voire des morts. Nani Talani fait le point.
Selon Ousmane Koulibaly, les migrants ont été battus à coups de matraque ou avec une barre de fer et certains d'entre eux ont eu la tête fracassée contre un mur. Il déplore au moins 3 morts, accusant les forces de l'ordre algériennes d'être racistes depuis les locaux de la protection civile où il est accueilli. Certains expulsés dénoncent le manque d'eau et de nourriture, le fait d'avoir été dépouillés de leur argent ou de leur téléphone portable avant d'être déportés comme du bétail dans des camions. D'autres affirment avoir été expulsés même si leurs papiers de séjour étaient en règle. Aucune source officielle malienne n'a confirmé ces informations sur les décès et les autorités algériennes n'ont fourni aucun commentaire sur cette vaste opération lancée au début du mois.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé lundi l'arrestation de 4 suspects dans l'attentat qui a fait 25 morts dimanche contre une église au Caire, alors que les soupçons des enquêteurs se dirigent désormais vers les frères musulmans. L'attaque perpétrée dimanche dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, contiguë à la cathédrale copte Saint-Marc, siège du pape Tawadros II, n'a certes toujours pas été revendiquée, mais lundi soir, le ministère de l'Intérieur a clairement accusé les dirigeants des frères musulmans établis au Qatar d'en être à l'origine, avec pour objectif de créer un conflit religieux à grande échelle.
Le gouvernement kényan va réfléchir sérieusement à un éventuel retrait du Kenya de la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a affirmé hier le président kényan, Uhuru Kenyatta. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Dans un discours à l'occasion de la fête nationale hier, le président Uhuru Kenyatta n'a pas mâché ses mots. Selon lui, la Cour pénale internationale, qui a démontré un manque flagrant d'impartialité, est devenue un instrument de la politique du pouvoir dans le monde et non de la justice pour laquelle elle a été créée. « Nous allons dès lors devoir réfléchir sérieusement à notre adhésion », a-t-il ajouté. Monsieur Kenyatta et son vice-président William Ruto avaient été inculpés par la CPI pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008. Par la suite, les poursuites ont été abandonnées. Depuis son entrée en fonction, la CPI a ouvert 10 enquêtes, dont 9 dans des pays africains. Certains leaders ont dénoncé un tribunal réservé aux Africains. Le Burundi a été le premier pays à claquer la porte en octobre. L'Afrique du Sud lui a emboîté le pas, puis la Gambie, faisant craindre une cascade de retrait des pays africains. La Russie a déjà annoncé le 16 novembre qu'elle va retirer sa signature du traité de Rome, qu'elle n'avait, du reste, jamais ratifié.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu Donald Trump va annoncer aujourd'hui son choix pour le poste de secrétaire d'État américain, c'est-à-dire de ministre des Affaires étrangères. C'est lui-même qui l'a annoncé sur Twitter. Anne Albertson.
Une certitude en tout cas, ce ne sera pas Mitt Romney. L'ancien gouverneur du Massachusetts a annoncé son retrait de la course lundi soir. Selon les dernières rumeurs, c'est bien Rex Tillerson, le patron du géant pétrolier ExxonMobil, qui tiendrait la corde pour occuper ce poste prestigieux et devenir la voix de la diplomatie américaine. Monsieur Tillerson, 64 ans, entretient d'étroites relations d'affaires avec Vladimir Poutine, qui lui a remis en 2013 la décoration russe de l'ordre de l'amitié. Cet homme, c'est-à-dire Poutine, est un voyou et un assassin. Je ne vois pas comment on peut être l'ami d'un ancien agent du KGB, a lancé le sénateur républicain John McCain sur CNN. Donc, M. Tillerson est loin de faire l'unanimité, y compris dans son camp. Le sénateur Marco Rubio a de son côté exprimé des réserves, tout comme son collègue Lindsey Graham. Et puis, le Congrès, à majorité républicaine, va bien enquêter sur les cyberattaques et les interférences russes dans l'élection américaine, accentuant la pression sur Moscou, alors même que Donald Trump tente de s'en rapprocher. Et il trouve ridicule les conclusions de la CIA, selon lesquelles le Kremlin aurait ainsi cherché à renforcer ses chances face à Hillary Clinton le 8 novembre dernier.
Le prochain patron des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé hier que l'ONU doit se préparer à changer juste après avoir prêté serment comme 9e secrétaire général. Jacques Aristide.
Pour M. Guterres, il est temps pour l'ONU de reconnaître ses insuffisances et de réformer la manière dont elle fonctionne. Il recommande des réformes dans 3 domaines, maintien de la paix, aide au développement durable et gestion. Face aux multiples conflits comme la guerre en Syrie, il nous faut davantage de médiation, d'arbitrage et de diplomatie préventive, a-t-il affirmé devant l'Assemblée générale de l'ONU en se disant prêt à s'engager personnellement si nécessaire. Constatant que les casques bleus étaient désormais souvent chargés de maintenir une paix qui n'existe pas, l'ancien Premier ministre portugais a préconisé une réforme globale de la stratégie et des opérations de l'ONU en faveur de la paix et de la sécurité. Il a également souhaité une meilleure coordination entre les nombreuses instances de l'ONU chargées de la lutte contre le terrorisme. L'ONU doit compter davantage sur les personnes et moins sur la bureaucratie, a-t-il lancé aux 193 pays membres réunis au Palais de Verre qui l'ont longuement applaudi. M. Guterres prendra ses fonctions au 1er janvier pour succéder à Ban Ki-moon.
Alors qu'Alep est sur le point de tomber totalement aux mains du régime syrien, après 4 semaines d'une offensive dévastatrice contre les rebelles, le secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général actuel Ban Ki-moon, s'est alarmé lundi des informations y faisant état d'atrocités récentes contre des civils. En perdant ses dernières positions à Alep, la rébellion va essuyer son pire revers depuis le début de la guerre en mars 2011. La reconquête totale de la deuxième ville du pays offrira en effet au régime et à ses alliés le contrôle des 5 principales cités de Syrie avec Homs, Hama, Damas et Latakia. De leur ancien bastion d'Alep Est qu'ils contrôlaient depuis 2012, les insurgés ne tiennent plus que 2 principaux quartiers, Soukhari et Al-Mashhad, en plus d'une poignée de petits secteurs, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans le sud de la métropole ravagée, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie se poursuivaient sur les derniers réduits rebelles, alors que les civils continuaient de fuir.
Et le gouvernement américain a déclassifié lundi un nouveau lot de documents éclairant les violations des droits de l'homme durant la dictature en Argentine entre 1975 et 1984, notamment dans le cadre de l'opération Condor. La divulgation de quelques 500 nouveaux documents par la Maison-Blanche fait suite à l'engagement du président Barack Obama lors d'une visite en mars 2016 d'aider l'Argentine à traduire devant la justice les responsables de violations des droits de l'homme sous la dictature.
Pour rester dans cette région, le chef de l'État bolivien Evo Morales a accusé hier le Chili d'économicide envers la Bolivie, soit l'équivalent d'un génocide, un crime contre l'humanité, en la privant toujours d'un accès à l'océan Pacifique. La Bolivie a perdu son accès à l'océan Pacifique suite à une guerre avec le Chili en 1879. Selon le rapport d'Oxfam, ce manque d'accès maritime amputerait le PIB bolivien de près de 1,5 point de croissance. La Bolivie a entamé des poursuites contre le Chili en 2013 devant la Cour internationale de justice afin de l'obliger à négocier de bonne foi l'accès maritime qu'elle demande. La Cour s'est déclarée compétente en 2015. La Bolivie a désormais jusqu'au 21 mars pour présenter son dossier et le Chili aura jusqu'au 21 septembre pour y répondre. La Minute Éco, Nani Talani.
Au Bénin, la Banque européenne d'investissement investit 30 millions d'euros dans le développement et la modernisation du réseau d'alimentation en eau potable à Cotonou. Le but est de fournir à l'horizon 2025 un accès à l'eau potable à 600 000 personnes. L'Agence américaine de financement du développement injecte 200 millions de dollars dans deux fonds pour l'Afrique. 100 millions de dollars à Apis Growth Fund pour accompagner les petits et moyens entrepreneurs des pays qui seront ciblés en Afrique, mais aussi en Asie. Le reste du financement accordé à Helios Credit Partner permettra de développer une solution d'offre de crédit au profit des entreprises basées en Afrique subsaharienne. Cette initiative devrait aider les secteurs de l'énergie, de la finance, du transport, de la logistique et des télécommunications. Et puis, la firme d'investissement Tana Africa Capital a cédé ses 25% de participation dans le capital du groupe agroalimentaire Promissador au japonais Ajinomoto pour 399 millions de dollars. Cette opération intervient dans le cadre de la stratégie d'Ajinomoto visant à acquérir les 33% de capital de Promissador qui est implanté dans 9 pays africains et vend ses produits dans près de 33 pays de la région. En 2015, elle a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 673 millions de dollars.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Nouveau ballon d'or pour Cristiano Ronaldo.
Oui, l'attaquant portugais a remporté le ballon d'or 2016, la distinction individuelle suprême dans le foot. C'est ce qu'a annoncé hier soir le magazine France Football. Cristiano Ronaldo, 31 ans, succède à son grand rival, l'Argentin Lionel Messi, au palmarès. Il décroche ainsi son quatrième ballon d'or après ceux obtenus en 2008, 2013 et 2014. On rappelle cette année 2016 exceptionnelle pour Ronaldo qui a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid et l'Euro avec le Portugal. Ces deux rivaux terminent deuxième et troisième, à savoir Lionel Messi, quintuple ballon d'or, et Antoine Griezmann.
Tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Le Real Madrid, tenant du titre, a hérité d'un bon tirage au sort face à Naples. À nouveau, une confrontation entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Les autres huitièmes de finale, Manchester City face à Monaco, Benfica Dortmund, Bayern Munich contre Arsenal, Porto Juventus, Leverkusen Atletico et le FC Séville contre Leicester.
Les 16e de finale de l'Europa League sont aussi connus.
Manchester United qui affrontera Saint-Etienne, un match a priori facile pour les mancuniens. Les deux autres chocs de ces 16e de finale, Villarreal contre l'AS Rome ou encore Mönchengladbach contre la Fiorentina. Enfin, Idrissa, on vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Charlotte 94, Indiana 110, Milwaukee 100, Toronto 122, Washington 101, Miami 112, Brooklyn Nets 118, Houston 122, Denver 92, Dallas 112.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau au micro, Idrissa Seloudia. Passons maintenant à nos dossiers du jour en ce mardi 13 décembre 2016. Une délégation de la CEDEAO, conduite par la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de l'organisation régionale, est attendue ce mardi à Banjul pour tenter de convaincre Yahya Jammeh de rendre le pouvoir après sa décision de ne plus reconnaître sa défaite. Les présidents nigérians et ghanéens devraient aussi faire partie de la délégation. Quelles sont les chances de succès de cette mission? Sida Diop, ancien ministre gambien des Affaires étrangères qui a servi dans le gouvernement de Yahya Jammeh, répond aux questions d'Abdourahmane Dia.
Je crois que la mission est venue à l'heure qui peut nous sortir de vraiment toutes ces complications. Je crois que l'arrivée du président Buhari avec le président du Libéria, et il paraît qu'il y aura le Sierra Leone et le Ghana, je crois qu'ils arriveront à le convaincre à accepter la défaite et de transmettre le pouvoir à M. Barrow.
Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour amener Yahya Jammeh à, disons, à accepter sa défaite?
Vous savez que Yahya Jammeh lui-même, il sait que pendant 22 ans de dictature, il a fait tellement de choses contre les droits de l'homme, contre la population gambienne. Il a dilapidé les ressources de la Gambie. Il n'osera pas, et je vous le dis, monsieur, il n'osera pas refuser l'arrivée de 4 chefs d'État chez lui. Il va l'exploiter pour avoir une sortie, parce que je crois que c'est les premières réactions des Gambiens qui, en fin de compte, doutent la vérité, qui ne peut pas partir comme ça sans être jugé. Bon, peut-être que c'était, on l'avait dit très tôt, mais c'est une chose qu'on ne pouvait pas cacher. Il y a une chose, c'est que s'il passe dans ces circonstances, il sauvera l'honneur. Et peut-être on envisagera une certaine situation spéciale pour lui, même si on allait le juger, je crois que sa bonne foi aura joué beaucoup de rôle pour pacifier tous ceux qui veulent la vengeance.
Oui, mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que la délégation de la CEDEAO devrait peut-être lui garantir une certaine immunité pour faciliter, son acceptation des résultats?
Si c'est une décision qui est faite pour éviter le carnage en Gambie, je suis d'accord. Mais cher ami, il est temps qu'en Afrique, on donne des exemples à nos dirigeants pour qu'étant au pouvoir, qu'ils sachent qu'il y a des lois qui gouvernent les institutions démocratiques dans le pays.
C'était l'ancien ministre gambien des Affaires étrangères, Sida Diop.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
République démocratique du Congo, à une semaine de la fin du mandat de Joseph Kabila, les États-Unis viennent d'adopter des sanctions contre le ministre de l'Intérieur et le chef du renseignement. Un peu plus tôt dans la journée, 7 autres responsables congolais, dont Célestin Kanyama, commissaire de la police nationale, étaient visés par des sanctions de l'Union européenne et le dialogue national doit reprendre aujourd'hui. Dans ce contexte, la CCT, Coalition des Congolais pour la transition, appelle de ses voeux une transition sans Kabila. Anastasie Toudiesh, adjoint à Kinshasa, Maggy Mouswamba Kanyeda, membre de la CCD.
La campagne Kabila, trop c'est trop. Donc nous, le peuple congolais, on en a marre. On a marre de Kabila. Il a géré pendant autant d'années, mais rien du tout. Alors c'est ainsi qu'on a décidé, donc nous, la CCD, tournons la page Kabila, trop c'est trop. Il a géré. Quel est le résultat? Rien du tout. Le premier des aventures, premier dialogue, deuxième dialogue. On est vraiment fatigué. Il doit partir avec son régime et nous laisser tranquille. Nous allons lutter jusqu'à la fin. En tout cas, on a besoin de la transition, mais sans Kabila.
Vous avez entendu que les États-Unis, comme l'Union européenne d'ailleurs, ont sanctionné certains hauts responsables congolais suite aux violences qui ont eu lieu les 19 et 20 septembre dernier. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont une bonne chose ? Qu'elles seront efficaces ?
Oui. Ces mesures-là, ce sont des voleurs. Ce sont des gens qui ont détruit ce pays ici en volant. La CCT est derrière cette sanction-là. C'est vraiment une très bonne chose. Ils sont en train de voler, ils s'enrichissent. Ils voient que leur propre intérêt. Ils ne voient pas l'intérêt de la population. La population souffre, les militaires, les fonctionnaires, tout le monde, n'en parlons même pas. Donc c'est vraiment triste. C'est bien de les sanctionner. En tout cas, la société est contente de ces sanctions.
Et que pensez-vous du dialogue, de la reprise du dialogue entre Étienne Tshisekedi et le SENCO?
Ce sont des aventures, hein. Ce sont des aventures. Je peux dire, Congo, il n'y a pas de vrais opposants.
Qui pour remplacer Joseph Kabila?
En tout cas, nous demandons d'abord que 19 et Kabila partent. Au cas où ils partent, il y aura des gens maîtres qui n'ont pas participé à leur bêtise là, qui n'a pas été au gouvernement, qui n'a pas géré ce pays ici, il y a la société, et il y aura toujours quelqu'un qui va diriger la transition. Demandons Kabila doit partir.
C'était de Kinshasa, Maggy Mouswamba Kanyida, membre de la CCT.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Suite à Yaoundé, au Cameroun, du 4e Salon international de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, l'accent est mis sur la transformation du manioc, avec l'objectif d'apporter une valeur ajoutée à plus de 200 millions de ces tubercules que l'Afrique produit annuellement. Le reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Lionel Gahima.
300 femmes, membres de l'association de producteurs de manioc à Akono, Cameroun, conditionnent cette tubercule et ses feuilles sous différentes formes. Madame Florence Témé fait partie du groupe.
Nous faisons le whisky, les biscuits, les croquettes, les chips de manioc, les beignets de manioc, les gâteaux de manioc, de la peau et de la farine blanche. Il y a le foufou, les feuilles de manioc séchées, l'ongari, les saucissons de manioc, les beignets soufflés de manioc, les crêpes de manioc, de l'eau distillée à base de la farine de manioc. Même la peau là est utile. Je fais la nourriture et l'élevage avec, donc mes bêtes ne souffrent plus.
La coopérative est limitée par le manque d'équipements modernes, explique sa présidente Marie-Joseph Ndana.
Pour l'instant, nous travaillons encore manuellement. Nous n'avons pas les machines. Pour produire, nous avons nos propres champs. Il y a aussi d'autres personnes qui viennent vers nous, ceux qui ont les champs. Ils ne savent pas comment faire de ce manioc-là.
Le manioc africain est exporté en grande partie vers l'Amérique, la Thaïlande et le Brésil. Le Japon en importe 2 millions de tonnes par an. Il est temps pour l'Afrique de réduire l'exportation de cette tubercule et d'en augmenter sa transformation locale pour créer des emplois et de la valeur ajoutée, estime Stanley Yimgen, un responsable agricole de la République démocratique du Congo. Si la production de manioc reste traditionnelle, elle ne pourra pas saisir les opportunités qu'offre la transformation industrielle. Le salon tente de connecter les industriels et les petits producteurs. Samson Garassi, délégué de la République centrafricaine au Forum de Yaoundé, a noté que les pays africains n'ont pas les moyens techniques ou financiers pour équiper les communautés rurales à la transformation industrielle du manioc.
En Centrafrique, le manioc est l'alimentation de base. Plus de 90% de la population consomme le manioc. Le grand défi, c'est qu'il y a un problème réel de financement de l'agriculture et particulièrement le manioc. Nous attendons beaucoup plus de contributions de bailleurs de fonds pour nous permettre d'augmenter la production. Et la production moyenne en République centrafricaine est estimée à peu près à 800 000 tonnes. Ce n'est pas encore suffisant pour la population. Il y a des trucs de transformation, mais de manière artisanale et semi-artisanale. Il faudra passer à une étape de production industrielle comme on le voit dans d'autres pays.
Les participants de leur rencontre à Yaoundé veulent s'inspirer de l'exemple du Nigeria, qui produit 20% du manioc mondial et dont la production est passée de 33 millions de tonnes à 45 millions. Les pays ouest-africains ont nettement amélioré l'efficacité de la main-d'œuvre, le revenu et le niveau de vie grâce au manioc, a fait savoir l'ingénieur agronome Vincent Noble, coordinateur du programme de développement de l'agro-industrie française.
Le gros avantage de ce fonds, c'est la possibilité d'apprendre d'un certain nombre de pays voisins, et notamment de l'Afrique de l'Ouest, des représentants de l'industrie du manioc du Ghana, du Nigeria et d'Afrique australe, qui vont pouvoir nous donner un aperçu de la façon dont eux ont réussi à transformer le manioc de façon industrielle, créer de la valeur ajoutée, créer des emplois. Pour l'instant, le développement du manioc en Afrique centrale reste essentiellement au niveau artisanal. Et donc, un des enjeux du forum, c'est d'essayer de lancer une dynamique qui va vers l'industrialisation du manioc.
Le manioc, un des principaux produits vivriers du continent africain, se cultive toute l'année et tolère les conditions climatiques extrêmes, d'où son rôle important dans la lutte contre les pénuries alimentaires.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Suite de la série de VOA Afrique sur Flint, aujourd'hui nous reparlons de cette ville du Michigan aux États-Unis où les habitants ont bu de l'eau contenant du plomb pendant 18 mois. Il y a un an, la maire de Flint déclarait l'état d'urgence et depuis plus de deux ans, des milliers de personnes ont lancé des procédures judiciaires. VOA Afrique, pour ne pas dire Nastasia Peteuil, s'est rendue sur place pour faire l'état des lieux de la crise. Nastasia a rencontré les personnes qui se battent nuit et jour pour obtenir gain de cause.
Depuis plus de deux ans, Melissa Mays milite pour obtenir justice après avoir été empoisonnée par l'eau de Flint. Cette mère de deux enfants fait partie d'une action collective pour demander des réparations. Ils sont 10 000 dans ce cas.
Nous visons l'État du Michigan, car ce sont eux les responsables. D'ailleurs, des employés ont été inculpés, ce qui prouve ce que l'on dit. On espère pouvoir faire changer les matériaux électroménagers détruits par l'eau, leur donner de nouvelles canalisations, de l'argent pour continuer à vivre et à s'en remettre. Personne ne va s'enrichir.
Les habitants sont en colère et souhaitent poursuivre en justice l'État du Michigan et le comté. Pendant plusieurs mois, l'administration a caché à la population que l'eau n'était pas potable. Rachel Young, avocate, défend les habitants depuis le début. Elle a tenté de poursuivre en justice l'État pour près de 6 500 personnes. Mais l'État a répondu qu'il n'était pas condamnable.
L'État nous a dit, oui, on a mis la pagaille, nous nous sommes trompés, mais nous sommes le gouvernement, nous étions de bonne foi et vous ne pouvez pas nous poursuivre en justice.
Les habitants vivent donc quotidiennement avec un sentiment d'injustice. L'État est intervenu au début de la crise, mais n'est plus présent depuis plusieurs mois sur le terrain. Après avoir été empoisonné pendant 18 mois, les familles cherchent des compensations financières.
Les habitants ont un sentiment d'injustice, car le gouvernement déclare qu'il n'est pas responsable pour les dégâts ou du fait que les enfants ont été empoisonnés ou que les habitants ont des rougeurs ou des pertes de cheveux et autres. Ils disent ne pas être responsables de leurs mensonges ou d'avoir déclaré que l'eau était potable alors que l'on envoyait des bouteilles d'eau aux fonctionnaires.
Plusieurs procès collectifs sont en cours. Pour l'instant, aucun recours n'a abouti. Les résidents de Flint doivent payer pour avoir ingéré de l'eau contaminée avec leurs propres deniers. Les conséquences sanitaires sont graves. Les enfants de moins de 3 ans et les nourrissons auront des conséquences à vie. Un drame pour les familles.
Merci Nastasia. Demain, nous parlerons des conséquences sur la santé à long terme pour les habitants de Flint. Vous pouvez retrouver cette série dans son intégralité sur notre site voafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le monde aujourd'hui. aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson, Jean-Roger Bion et à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.